Les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour une nouvelle émission des quartiers. Aujourd'hui, nous sommes en direct à l'école de Berville-la-Campagne, l'occasion pour vous de vous proposer différents sujets. On retrouvera notamment les deux Thomas et Mathéo qui seront au téléphone pour une interview foot freestyle avec Andreas. Sacha, Lucas et Théo seront avec Florian Vidal de l'EAC Athlétisme, donc pour vous parler d'athlétisme. On retrouvera également Michael et Quentin qui nous parleront du métier d'ingénieur. Ils seront notamment au téléphone avec Raphaël Vigier, ancien ingénieur. Et puis, on va commencer cette émission dans quelques instants au téléphone avec Monsieur Vaucel, principal adjoint du collège Guillaume de Conches. Il sera interrogé par Maïlis, Romane, Emma et Lola. Voilà, je vais leur laisser la place dans quelques instants, juste le temps de saluer JC à la réalisation de cette émission.
Et quand tu sais qu'un battement d'ailes de papillon peut être la cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé et dans la vraie vie, approuvé par tous, l'effet papillon, ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses.
Principe actif.
Voilà, dans quelques instants, on va retrouver Maïlis, Romane et Emma et Lola également au téléphone avec Monsieur Vaucel, comme je le disais, donc principal adjoint du collège Guillaume de Conches. Mais avant ça, elles avaient préparé un micro-trottoir sur leur passage en sixième qui les préoccupe, voilà, parce que ça arrive, hein, c'est l'année prochaine pour pas mal d'entre elles. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ce micro-trottoir.
Quelles sont vos craintes pour le collège ?
Je sais pas.
Bon, j'en ai pas trop.
J'en ai aucune.
Presque aucune. Parce que mon frère, il est bien connu dans le collège, donc j'ai aucune crainte.
Quelles sont mes craintes pour le collège ? Bonne question.
Mes craintes pour le collège, c'est de me perdre dans les couloirs.
J'en ai pas vraiment.
Je sais pas.
Quelle est ta matière préférée ?
Les mathématiques.
L'art visuel.
Les mathématiques.
La récréation.
Le français.
Les mathématiques.
Les maths.
Qu'attends-tu de ta rentrée en sixième ?
Qu'il fasse bon pour aller en récré.
Qu'il fasse beau.
Je sais pas.
D'apprendre des choses. Ouais, d'apprendre beaucoup de choses.
Je sais pas vraiment.
De pas avoir trop de devoirs.
Voilà, les aléas du direct font que nous avons du mal à joindre Monsieur Vaucel. On va le rappeler dans un petit instant. Je vais m'adresser quand même à Maïlis, Romane, Emma et Lola. Bonjour à toutes les trois. Comment ça va pour vous ?
Ça va bien.
Bah oui, rapprochez-vous des micros, n'hésitez pas.
Hein.
Ils sont là pour ça. dites-moi, pourquoi vous avez voulu parler un petit peu du passage en sixième et du collège ? Ça vous interpelle, ça vous questionne, le passage en sixième ?
Oui. C'est parfait. Ça nous impressionne de rentrer dans une école où il y a plein d'élèves de différentes classes. Parce que nous, on est habitués à une école où il y a principalement une ou deux classes. Et ça va être gigantesque, quoi.
Les autres, c'est quoi un petit peu vos appréhensions par rapport au collège ? Comment ça se passe pour vous ? Rapproche-toi bien du micro, n'hésite pas.
J'ai peur de me perdre dans les couloirs.
oui, ça c'était quelque chose. N'hésite pas à bien parler dans le micro. Tu disais que t'avais un peu peur de te perdre dans les couloirs. En effet, ça c'était une des appréhensions qu'on a écoutées quand vous êtes allé voir vos camarades pour réaliser le petit micro-trottoir qu'on a entendu, qui était une des inquiétudes de vos camarades. Les autres, comment vous envisagez le passage en sixième au collège l'année prochaine, peut-être ? C'est l'année prochaine pour vous ?
Non.
Non, c'est l'année d'après. Bon, bah, c'est pas grave, on peut anticiper d'une année. Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous attendez du collège, vous?
Bah, ça va faire bizarre.
Pourquoi?
Bah, parce qu'il y aura des tonnes de gens et tout, dans le couloir et tout.
Et toi?
Bah, moi, j'ai hâte d'entrer au collège. Parce qu'il y a d'autres gens que je connais. Et par contre, j'ai un peu peur aussi de me perdre dans les couloirs.
Oui, bah oui, oui. Et c'est quoi un petit peu vos matières préférées?
Bah moi, c'est mathématiques et le français.
Les autres?
Moi, c'est les mathématiques.
J'adore le français. Les mathématiques et l'art visuel.
Ouais, très bien. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on s'accorde une petite pause musicale et on revient juste après. En plateau. On est toujours en direct de l'école de Berville-la-Campagne pour cette émission des quartiers. Et on va retrouver dans quelques instants toutes les quatre, Maëlys, Romane, Emma et Lola. On va discuter du collège avec Monsieur Vaucel. On repart en musique et puis on revient juste après. Drivers avec le morceau Mister Astronaut.
Vous êtes bien sûr
Principe Actif, 102.4 FM.
Et voilà, et on retrouve maintenant Thomas et Mathéo. Ils vont recevoir leur invité. Je vous laisse procéder, messieurs. Votre invité est en ligne avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors ?
Alors, les gens. Allez, allez.
Bonjour, c'est Thomas, Mathéo, Thomas, nous allons vous parler du foot freestyle. Le but du jeu consiste à accomplir des jongles et des acrobaties avec un ballon de foot.
Ouais, très bonne définition.
Question.
Dans le micro.
Question.
Allez.
Quand et comment ont été inventés le foot freestyle ?
Alors, le foot freestyle, c'est compliqué de dire quand est-ce que ça a été inventé, parce que, en vérité, il y a des footballeurs à l'époque, genre Maradona, etc., qui faisaient des gestes techniques à l'entraînement ou en échauffement en début de match et en fin de match. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'est né le freestyle. Après, d'autres personnes dans la rue ont commencé à faire des tricks. Et au fur et à mesure, la discipline s'est instaurée et on a commencé à faire des compétitions, etc. Mais c'est difficile de mettre une date sur quand est-ce que ça a été inventé. Parce qu'avant aussi, il y a eu les gens qui faisaient du cirque, mais c'était pas vraiment du freestyle, mais ils faisaient des gestes avec un ballon. Enfin voilà, c'est très compliqué. Mais je dirais que la discipline freestyle a commencé il y a 10 ans. Mais c'est très compliqué de dire quand est-ce que ça a été inventé. Voilà.
D'accord. Quels sont les équipements particuliers ?
Ah, les équipements particuliers, c'est très simple. Il faut juste un ballon et moi de la musique pour pouvoir m'inspirer. Mais sinon, voilà. Juste un ballon, toi et ton corps. Voilà.
Quelles sont les règles du foot freestyle ?
Et ça, dans le freestyle, c'est assez particulier parce que normalement, il n'y a pas de règles. En fait, c'est justement le freestyle a été inventé pour sortir un peu du cadre du football où il y avait justement trop de règles. Et du coup, le freestyle, c'est une discipline qui est vraiment libre. Et le but, c'est de créer le maximum de gestes et de ne pas se mettre de limites. Donc, non, en général, il n'y a pas vraiment beaucoup de règles.
Quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent essayer ?
Bah, je vous conseille de regarder des vidéos, de regarder des tutos pour apprendre et de vous entraîner et surtout de kiffer la discipline et d'essayer de chercher tout le temps de nouveaux tricks et voilà quoi, d'éveiller votre esprit créatif et voilà.
Quel est ton objectif ?
Mon objectif, j'en ai plein avec mon groupe, notamment c'est de gagner le plus de compétitions. De donner des cours à des jeunes pour développer la discipline, peut-être un jour monter une école, faire un spectacle, enfin voilà, il y a énormément de projets. Voilà.
Comment t'entraînes-tu ?
Ah, je m'entraîne dans une salle de sport 3 fois par semaine, mais après tous les jours en fait je m'entraîne parce que quand je m'entraîne pas au freestyle, je m'entraîne à la salle en faisant des exercices qui n'ont rien à voir avec le freestyle mais qui m'aident. Je prends des cours de danse pour améliorer mon freestyle aussi. Donc je m'entraîne environ tous les jours, mais sinon en pur freestyle, je m'entraîne 3 fois par semaine.
Comment as-tu pu passer professionnel ?
Je suis passé professionnel tout simplement sans faire exprès. En fait, y a des gens qui m'ont proposé des shows et du coup, j'ai tout de suite dit oui. Et ensuite, au fur et à mesure, je suis devenu intermittent et donc voilà, je vis de ma passion.
Sur quelle surface travaillez-vous ?
On travaille le freestyle, on peut le travailler sur toutes les surfaces. Il y en a qui aiment bien freestyler sur l'herbe, il y en a d'autres qui aiment le bitume. Moi, je apprécie particulièrement les parquets et donc voilà.
Quelle est ta spécialité ?
Ma spécialité, moi, dans le freestyle, c'est vraiment la mixité, le mélange des tricks et le mélange avec la danse hip-hop. Je dirais que c'est le mélange. Voilà.
À quel âge as-tu connu le foot freestyle ?
J'ai connu le foot freestyle très tôt, vers 14 ans. J'avais 14 ans. C'était en 2002. Donc ouais, c'était il y a très longtemps.
Dans quelle association et quel club travailles-tu ?
L'association s'appelle France Freestyle Ball et c'est avec cette association qui organise les championnats de France, etc. Et aussi l'association F3 qui est celle de mon groupe.
Merci Andreas d'avoir répondu à nos questions.
Pas de souci, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Eh ben merci à toi, Andreas. On rappelle qu'on t'avait rencontré notamment à l'occasion du Festival des Cultures Urbaines sur Évreux il y a un petit mois ou deux. Et voilà, on était très contents de pouvoir te ressolliciter aujourd'hui. Et puis, on te garde parmi nos contacts. Merci encore à toi d'avoir joué le jeu. Nous, on repart en musique. Merci encore, Andreas.
Merci à vous, hein. C'était super.
Merci. Super. Au revoir.
Au revoir.
Every time I kissed you, it never failed. You'll execute my lips and put my heart in jail. Well, hold it, hold your love and hold it. Your tweet cut a dove and baby, please hold the phone. Oh, well, hold it till I come home. The green light means to get up and go. The red light means to take it slow. The yellow light means to take your time. Cause I got to have your love and all the time. Well, hold it. Hold your love and hold it. Oh, your tweet to the dog. Hold it, baby, hold it. Oh, well, hold it till I come home. You know I love you, baby. I love you with all of my mind. You know darn well, baby. You're my heart's delight. Cause when my lip I jump, I'm gonna climb a tree. I can see everything that you're doing to me. I really love you, baby, love you every ounce. And I love you, sugar, till the meatballs bounce. Well, hold it, hold your love and hold it. Your tweet to the dove, and baby, please hold the phone. Oh, well, hold it till I come home. I'm gonna climb a tree. I can see everything that you're doing to me. I really love you, baby, love you every ounce. And I love you, sugar, till the meatballs bounce. Well, hold it, hold your love and hold it. Or your tweet to the dove, baby, please hold the phone. Oh, well, hold it till I come home. Hold your love and all night long. Hold your love and all night long. Hold your love and all night long.
On vient d'écouter le morceau de Titus Turner qui s'appelle Hold Your Loving.
Vous n'avez plus qu'une chose à faire, branchez-vous 102.4 FM, Radio
Principe Actif.
Et nous sommes toujours en direct et en live de l'école de Berville-la-Campagne pour cette nouvelle émission des quartiers que nous vous proposons sur l'antenne de Principe Actif. Et puis maintenant, je vais laisser la place à Sacha, Lucas et Théo qui reçoivent un nouvel invité au téléphone. Messieurs, je vous laisse procéder.
Bonjour Florian Vidal.
Bonjour.
De la AEC. AEC. EAC de l'athlétisme. Nous sommes Lucas, Sacha, Théo. Nous voulons en savoir plus sur l'athlète.
Oui, alors l'EAC athlétisme, on est un club centenaire. On a plus de 100 ans. On est à Évreux, bien évidemment. Et on a plus de 500 licenciés aujourd'hui. Donc on est le deuxième club sportif à Évreux. On a 3 salariés. On a 36 entraîneurs. Et on a des athlètes qui sont aux portes de l'équipe de France. Et même certains sont en équipe de France jeune.
Comment organise-t-on les concours ?
Comment on organise les compétitions ? Les compétitions, ça dépend desquelles, parce qu'il existe en athlétisme plusieurs types de compétitions en fonction des âges des athlètes. Pour les compétitions des petits, c'est les moins compliquées, parce que ça demande moins de matériel et moins de bénévoles, donc ça, on peut s'en sortir avec 2 semaines de préparation. Après, quand on va sur des compétitions avec des plus grands, ça demande plus de matériel, et là, on a besoin de, des fois, 2 à 3 semaines, voire 1 mois de préparation. Et puis ensuite, ça dépend du type de compétition aussi. Nous, l'athlétisme, on organise un cross, on organise une course sur route, on de ce qu'on fait. Des fois, on a besoin de 150 bénévoles, des fois, on n'en a besoin que de 30.
Pouvez-vous nous parler l'origine de l'athlé?
Oh là, alors l'athlé, c'est un sport qui a toujours existé depuis les millénaires, notamment par exemple le fameux marathon, hein, où on sait que c'est un athlète grec qui s'appelait Marathon qui a fait les 42 kilomètres. Donc là, on parle des années. Et puis l'athlétisme, la chance, c'est qu'on a des sports, on a une multitude de sports, on n'en a pas qu'un. C'est-à-dire qu'on peut courir, on peut sauter, on peut lancer le disque. Pareil, quand on parle de la Grèce antique, on lançait le disque, on lançait le poids. C'est des lancers qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc l'athlétisme est un sport très, 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 très ancien.
Quels sont les sports qu'il y a dans l'athlé?
Alors il y en a beaucoup. Il y en a plus d'une vingtaine. Alors vous avez 4 types de lancers. Vous avez le lancer de javelot, le lancer de disque, le lancer de poids et le lancer de marteau. Vous avez 4 types de sauts. Vous avez le triple saut, le saut en longueur, le saut à la perche, le saut en hauteur. Et après, vous avez une multitude de courses allant du sprint très court, c'est-à-dire des 30 mètres, jusqu'au 800 mètres, 400 mètres, 800 mètres. Après, vous arrivez sur le demi-fond. Alors le demi-fond, c'est 1500 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres. Ça, c'est sur les disciplines sur piste. Mais vous avez aussi des disciplines hors piste, donc c'est-à-dire les courses sur route. Vous avez des 5 km, des 10 km, des 21 km, des 42 km. Et maintenant, vous avez ce qu'on appelle des ultra-trails. Donc, c'est des courses dans la montagne et vous avez des 72 km, 120 km. Vous avez maintenant des 24 heures, des 48 heures, des gens qui courent pendant 48 heures. Et tout ça, ça fait l'athlétisme. Donc, on a énormément de disciplines.
Est-ce que vous participez à des compètes?
Alors moi personnellement, un petit peu encore, parce que ça y est, ma carrière est derrière moi, je commence à devenir vieux, mais oui, je fais quelques compètes encore à mon tout petit niveau, où j'essaye de recourir un petit peu sur 400 mètres, sur 800 mètres, sur 1500 mètres, mais avec des chronos qui sont totalement moyens, parce que j'ai plus le temps de m'entraîner, et que, quand on devient un peu moins jeune, c'est un peu plus compliqué aussi de s'entraîner, parce que le corps vieillit.
Avez-vous participé aux Jeux Olympiques?
Moi, non. Non, j'en étais très, très loin, parce que j'ai jamais eu un niveau extraordinaire en athlétisme. Par contre, on a la chance d'avoir au club des personnes, oui, qui ont participé aux Jeux Olympiques, et notamment on a un marcheur, Alain Lemercier, qui a participé à 2 Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Séoul en 88 et les Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Sur les deux Jeux Olympiques.
Quel est le parcours pour devenir athlète?
C'est déjà une motivation, une grosse envie, parce que l'athlétisme est un sport exceptionnel, très complet, mais on s'entraîne dehors. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Les entraînements, des fois c'est un petit peu difficile. L'avantage c'est qu'on est en groupe, donc en groupe on arrive à aller toujours un petit peu plus loin au niveau de ses performances, au niveau de ses limites, ses capacités physiques. Après c'est un sport qui demande énormément de travail, beaucoup d'entraînement si on veut viser des objectifs et des performances. Et après derrière c'est surtout se faire plaisir. Si on a un groupe, si on a envie de faire de l'athlétisme, on vient dans un club qui est plutôt bien structuré comme le nôtre et obligatoirement on sera content.
Quel est le plus grand champion en athlé?
Alors le plus grand champion en athlé, il y en a beaucoup parce qu'on a beaucoup de disciplines. Mais il y a des champions qui ont marqué l'histoire comme Carl Lewis, l'Américain, comme Mike Powell. Vous avez des champions sur le demi-fond comme Hicham El Guerrouche, comme Gebrselassie. Ce sont des athlètes exceptionnels comme aujourd'hui Mo Farah. Vous avez aussi des Français qui sont très très bons et notamment Renaud Lavinelli qui est quand même champion du monde et recordman du monde du saut à la perche avec 6m16, Kevin Mayer qui est le meilleur des quatre aujourd'hui dans le monde. Donc il y a beaucoup de champions et il y a beaucoup d'athlètes qui ont marqué leur sport.
À quelle vitesse courez-vous?
Alors moi, plus très vite. J'ai jamais couru très très vite parce que j'étais plus un coureur de 400 mètres. Bon, aujourd'hui, je suis capable de courir encore sur mes séances à 24-25 km heure, mais pas plus vite parce que je suis devenu un peu trop vieux pour ça.
Quelles sont les règles du lancer de disque?
Alors le lancer de disque. Le lancer de disque, tout simplement, vous lancez dans une aire, donc il ne faut pas sortir de l'air. On n'a pas le droit, quand on lance le disque, de mettre son pied en dehors de l'air, sinon c'est une faute et donc le lancer ne sera pas mesuré. Après, vous avez aussi des traits qui délimitent la zone de chute du disque. Donc si vous êtes en dehors des lignes, c'est pareil, le disque, la performance ne sera pas prise en compte. Et puis vous avez une façon de lancer aussi le disque. Vous n'avez pas le droit de le lancer, par exemple, sous les jambes. Vous n'avez pas le droit de le lancer derrière la tête. Donc il y a toute une réglementation à connaître et à respecter pour que le lancer soit valable.
Quel est l'exercice que vous préférez ?
Alors moi, la discipline que je préfère, j'enseigne chez les plus petits, j'adore le marteau et la perche. J'en ai jamais fait, mais je trouve que c'est deux activités exceptionnelles pour les enfants, parce qu'on apprend plein de choses, parce que c'est extrêmement ludique, et parce qu'on arrive à avoir des sensations très 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 rapides.
Quel est le record du monde du saut en longueur ?
Alors, j'espère que personne va se moquer de moi, mais je crois que c'est Mac Powell, et puis là, on a plus de 8 mètres. Donc, à quelques centimètres près, je vais me tromper, donc je préfère m'abstenir. En plus de ça, je sais que derrière, on va se moquer de moi, mais on a plus de 8 mètres, 8 mètres 20 sur le record du monde de son longueur, je crois.
Quel est le record du lancer de javelot ?
Alors, lancer de javelot, il y a eu deux types de records, parce que au tout début, le javelot, on appelait ça les javelots planeurs, c'est les javelots qui allaient très très loin, donc il y a une réglementation qui a fait qu'on a changé les types de javelots, parce que le javelot allait à plus de 100 mètres, c'est-à-dire que le javelot, il faisait tout le terrain du stade, et c'était devenu même dangereux, parce que ça passait de l'autre côté. Donc, ils ont ajusté, en fait, et mis aux normes une réglementation, et aujourd'hui, on est au-delà de 90 mètres. 18 mètres, je crois, le record du monde du javelot à peu près, donc c'est très 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 loin.
Comment se passe la vie d'un athlète ?
Tout dépend de son niveau. C'est-à-dire que si on est à un niveau interrégional ou national, c'est une vie comme tous les jours. Alors, c'est beaucoup d'entraînement parce que à ce niveau-là, déjà, on passe à 5 à 6 entraînements par semaine, donc quasiment tous les jours. C'est une organisation aussi parce que ça tourne, la vie tourne autour de l'athlétisme. Après, si vous devenez un athlète encore plus performant et que vous êtes en équipe de France, là, vous entraînez deux fois par jour, voire même des fois trois fois par jour, tous les jours. Et là, vous avez des fois des sponsors, des gens qui vous payent vos vêtements, vous avez des fois des managers, des agents, donc là vous rentrez dans un sport qu'on appelle plus sport professionnel, mais sinon c'est toute une organisation, faut faire attention à l'alimentation, parce que être bon aussi dans un sport c'est une vie à côté, une hygiène à respecter, donc tout ça c'est à prendre en compte.
Merci Florian d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Au revoir.
Oui, merci beaucoup Florian, on garde en ligne un tout petit instant. Merci, tu as très 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 bien répondu aux questions des enfants. On rappelle que tu fais partie du club de l'EAC Athlétisme, ça a été cité. Et puis on se retrouve, je crois que c'est en septembre, tu vas nous rappeler la date pour l'Hébroïcienne, parce qu'avec Principe Actif on est partenaire. Tu veux bien nous rappeler la date de l'Hébroïcienne si tu l'as ?
Oui, je l'ai tout de suite et je ne vais pas dire de bêtises parce que ma mémoire me fait défaut, c'est le 24 septembre. Hébroïcienne, où là en plus on va accueillir à peu près 1500 athlètes et notamment on est support du match interligue junior espoir, c'est-à-dire que les meilleurs juniors espoirs de France seront là sur le 10 km.
Voilà, et on vous fera vivre ça sur les ondes de Principe Actif sur le 102.4. Merci encore à vous Florian Vidal de l'EAC Athlétisme. On se retrouve en septembre le 24 donc pour l'Hébroïcienne. Ciao, merci, nous on repart en merci. Musique.
Don't hold my baby tight as you can. Tonight she'll know I'm a mambo man. Have you heard the news? There's good mambo tonight. Have you heard the news? Everybody's going mambo tonight. Gonna hold my baby tight as you can. Tonight she'll know I'm a mambo man. Have you heard the news? There's good mambo tonight. Thank you. turns out the day, whole congregation is on its way. They'll be there just waiting to see Mambo, Mambo with you and me. Heard the news, there's good Mambo tonight. With sweet Georgia Brown, Sister Sue, the deacon's wife, his grandfather too. They'll be there jumping like mad. They hear that Mambo and feel so glad. Heard the news, there's good Mambo tonight. Have you heard the news? There's good Mambo tonight. Well, you heard the news. There's good Mambo tonight. Have you heard the news? There's good Mambo tonight. Well, we go to Mambo. We go to Mambo. We go to Mambo.
Vi Noni Harris, le morceau s'appelle Good Mambo Tonight.
C'est trop bien la radio!
Principe Actif 102.4 FM.
Voilà, et on retrouve Mickaël et Quentin avec leur invité. Messieurs, je vais vous laisser avec votre invité. Mickaël et Quentin, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question, messieurs, vous avez votre invité en ligne, hein, n'oubliez pas.
Bonjour, monsieur Raphaël Vigier. On va vous poser des questions sur le métier d'ingénieur. À votre avis, à quoi sert le métier d'ingénieur ?
Alors, c'est une vaste question. Ingénieur, à la base, c'est les personnes qui conçoivent tout ce qui est soit matériel, soit façon de fabriquer les produits dans l'industrie. Alors, c'est devenu, au début c'était ça, c'est devenu, il y a des ingénieurs, par exemple dans l'industrie automobile, il y a des ingénieurs aussi pour fabriquer des ponts, pour dans tout ce qui est fabrication d'immeubles dans les chantiers, dans l'entrepreneuriat. Et puis, il y a des ingénieurs en informatique, c'est eux qui conçoivent les programmes. Voilà, c'est ça le métier d'ingénieur.
Et comment a été inventé le métier d'ingénieur ?
Il s'est inventé au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité fait qu'on a inventé des objets de plus en plus compliqués. La première invention et le premier ingénieur, c'est celui qui a inventé la roue. Donc c'était il y a plusieurs milliers d'années. Et les systèmes sont devenus de plus en plus. On est passé de la roue à des véhicules, puis des moteurs. Donc il y a eu des révolutions industrielles, ce qu'on appelle les révolutions industrielles, c'est quand on a inventé la machine à vapeur qui s'est mise à remplacer les humains pour, par exemple, le tirer des véhicules, hein, le train, les tracteurs, pour les bateaux aussi. Et puis il a fallu des gens. On a séparé le travail. Il y a ceux qui fabriquaient les machines, qui étaient plutôt les ouvriers, et puis il y a ceux qui concevaient, qui étudiaient pour imaginer ces machines, comment on les fabrique, avec quelle matière, comment on fait pour assembler tout ça. Et c'est comme ça qu'est né le métier d'ingénieur.
Quelles sont les étapes pour créer quelque chose ?
Alors les étapes pour créer quelque chose, il y a d'abord de bien savoir quel est le besoin. C'est ce qu'on appelle établir un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est un document dans lequel on dit ce qu'on veut. Alors par exemple, vous pouvez établir un cahier des charges pour faire un véhicule volant. Par exemple, si on dit je veux une voiture qui peut voler, donc votre cahier des charges c'est je veux un véhicule qui peut permettre à une, deux ou trois ou quatre personnes de rouler sur des routes qui aient telle longueur, telle largeur. Voilà, donc ça c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'est le bureau d'études, donc ces ingénieurs d'études, c'est eux qui font des plans. Donc ils se disent, à partir de ce document, ce cahier des charges, je vais faire un véhicule, je vais plutôt mettre des roues, plutôt en caoutchouc, je vais utiliser tel matériau, et ils font les plans. Donc ils dessinent des plans, il y a encore beaucoup d'ingénieurs qui font des plans, alors maintenant on utilise l'ordinateur pour faire des plans. Et puis après il y a des ingénieurs qui sont là pour, à partir des plans, dire ben, voilà comment on va fabriquer cette machine. On va utiliser plutôt tel matériau parce que c'est plus pratique dans notre usine pour fabriquer, ou on va trouver plus facilement pour se procurer ces matériaux-là voilà, sur le marché. Et puis ça va être plus facile parce qu'on a telle machine pour fabriquer, donc voilà. Et puis après, c'est la phase de fabrication, donc il y a l'étude, la mise en fabrication et la fabrication, et puis voilà, c'est toutes ces phases-là sont des phases du métier d'ingénieur.
Faites-vous les plans à la main ?
Alors non, c'est ce que je vous disais, ça ne se fait plus. Moi, j'en ai fait un petit peu quand j'étais étudiant pour qu'on comprenne un peu comment ça marche. Maintenant, c'est tout sur ordinateur. Bon, ça, il y en a encore un qui dessine à la main pour des petites pièces simples, mais maintenant tout est fait sur ordinateur parce que non seulement l'ordinateur, il vous fait des choses très très jolies parce qu'à la main, on pouvait faire des bavures, la règle, elle pouvait glisser, c'était compliqué, alors que là, l'ordinateur, on peut recommencer X fois, c'est très facile. Mais en plus, avec l'ordinateur, on peut faire des simulations, c'est-à-dire que on peut dessiner sa machine et puis on simule si elle va être résistante, si on la fait cogner contre quelque chose, par exemple, ou si on la fait chauffer. L'ordinateur sait faire des simulations. Donc ça, c'est vraiment très, très puissant. C'est un outil qui a révolutionné aussi le métier d'ingénieur.
Dans les usines qui marchent avec l'électricité, que faites-vous s'il y a une panne d'électricité ?
Dans les usines, pardon, j'ai pas bien entendu la question.
Qui marchent avec l'électricité ?
Ouais.
Que faites-vous s'il y a une panne d'électricité ?
C'est une bonne question. Moi, je connais pas beaucoup d'usines qui fonctionnent sans électricité. Il faut savoir que quand même dans les usines, il y a ce qu'on appelle des générateurs de secours qui font, vous avez peut-être entendu parler du terme groupe électrogène. Ce sont des gros moteurs, qui marchent à l'essence et qui font tourner des générateurs, des générateurs d'électricité en fait, et qui en cas de coupure permettent de continuer à fonctionner. Après, il faut savoir que dans les usines de fabrication, et en particulier les grosses usines comme la construction automobile chez Renault, Peugeot, ils ont des contrats spécifiques avec EDF, parce que chez nous c'est EDF, hein, même si ça s'ouvre à d'autres, à la concurrence, c'est quand même EDF. Des contrats spécifiques qui garantit l'arrivée de l'électricité. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il peut y avoir des coupures chez les gens, chez les particuliers, chez vous, chez moi, mais il continue à y avoir de l'électricité dans les usines parce que c'est des contrats qui imposent tellement de pénalités à EDF s'il y a une coupure qu'ils mettent tous les moyens pour qu'il n'y ait pas de coupure dans ces usines-là. Donc voilà, donc déjà ils mettent beaucoup de moyens et en plus les usines prévoient des moteurs de secours au cas où.
Quels sont les avantages et les inconvénients du métier d'ingénieur ?
Alors, les avantages, c'est un beau métier parce que on peut concevoir, il y a beaucoup de débouchés dans plein de disciplines. Je vous ai parlé de l'industrie, donc je vous ai parlé aussi du bâtiment travaux publics et de l'informatique. Donc voilà, c'est des disciplines un peu différentes. C'est un métier avec des projets qui peuvent être passionnants. Je pense notamment à tout ce qui est aérospatial. Hein. C'est des ingénieurs qui conçoivent les fusées aussi, donc c'est vraiment ou les véhicules qui vont sur Mars, les satellites, tout ça. C'est vraiment des projets absolument passionnants. L'inconvénient, l'autre avantage, c'est que on est mieux payé que si on est ouvrier ou si on est que d'autres métiers, on peut être bien payé. Alors c'est pas les mieux payés du monde, hein, mais c'est quand même des métiers bien payés. Et puis l'inconvénient, ça peut être du stress, parce que pour des gros projets comme une fusée, C'est beaucoup de pression, il y a des gros budgets en jeu, et du coup, des fois la fusée elle décolle pas, ou des fois vous apprenez qu'il y a on entend des fois à la télé, à la radio, qu'il y a des accidents et que c'est à cause d'une voiture qui a été défectueuse, ou qu'un constructeur rappelle des véhicules, c'est parce que peut-être un ingénieur a pas bien fait son travail et a mal conçu une pièce, et donc il va être montré du doigt, il va peut-être devoir se défendre au niveau de la justice. Donc ça peut être du stress, énormément de stress pour certains postes, mais bon, ça reste des métiers pour ceux qui aiment réfléchir, concevoir des systèmes. C'est beaucoup de réflexion, c'est du travail en équipe, hein. On travaille avec plein d'autres disciplines, mais ça peut être un très beau métier pour ceux qui ont envie de s'y consacrer, quoi.
Est-ce que toutes les machines marchent à l'électricité ?
Alors, non. Par exemple, la voiture, elle fonctionne pas à l'électricité, elle fonctionne à l'essence. Alors, même si dans la voiture, on recrée un petit peu d'électricité, ça reste une source d'énergie, une source d'énergie vraiment très, très pratique pour fonctionner. Mais il y a d'autres sources d'énergie, hein. Et puis maintenant on va vers des énergies qu'on dit propres, hein, comme le solaire. Même si le soleil on le transforme en électricité, c'est quand même une énergie qui est pratique pour faire fonctionner des tas de systèmes, dont tout ce qui est électronique et informatique aujourd'hui, et on ne sait pas s'en passer. Donc à un moment on en a besoin, mais l'énergie de base peut être autre que l'électricité. Ça peut être l'éolien, le vent, ça peut être, je vous ai parlé d'essence. L'essence, c'est pas que celle à la pompe, il y a les agrocarburants maintenant, il y a d'autres sources d'énergie.
Quelles sont les études qu'il faut faire pour devenir ingénieur ?
Alors, pour devenir ingénieur, alors il y a des filières un peu classiques, mais alors c'est plutôt des études scientifiques. Il y a des écoles, il y a ce qu'on appelle le réseau des écoles d'ingénieurs qui préparent à ça. Donc en général, il faut un bac scientifique. Et puis il y a soit des écoles qui préparent directement, c'est ce que moi j'avais fait après le bac, soit on passe par des années de préparation, des années préparatoires, hein, de 2 ou 3 ans avant d'intégrer ces écoles-là. Et puis maintenant, il y a des filières universitaires. Ça peut être des écoles d'ingénieurs liées à l'université. Si on rentre à l'université, et puis à l'intérieur de l'université, il y a des diplômes d'ingénieurs. Donc il y a beaucoup plus de filières qu'avant. Avant, c'était fallait tout passer par un même réseau. Maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités. Mais ce qui est sûr, c'est que pour faire un métier d'ingénieur, il faut avoir fait des mathématiques, des sciences, qui sont les matières de base dans ce métier-là. Dans la pratique du métier, on en fait moins, c'est les machines, c'est les ordinateurs qui font tous les calculs. Mais pour comprendre ce que font les ordinateurs, pour imaginer des systèmes, il faut avoir compris et fait des maths un peu avant pour savoir de quoi on parle un petit peu.
Merci Raphaël d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie. Et puis, bon courage et puis bonne chance pour si vous voulez vous lancer dans cette filière-là.
Merci à vous, Raphaël Vigier, d'avoir pris le temps de répondre aux questions des enfants, notamment Mickaël et Quentin. Ils avaient préparé un petit micro-trottoir. On vous propose d'écouter ça, puis ils vont revenir avec un petit texte qu'ils ont préparé sous forme de chronique. Merci encore à vous, Raphaël Vigier. On vous retrouve très prochainement.
Merci.
À ton avis, à quoi sert le métier d'ingénieur ?
À fabriquer des choses, à s'en occuper. Enfin, après, je ne sais pas trop à quoi ça consiste.
À fabriquer des choses, des ustensiles ménagers, hein, je pense.
Faire des choses et tout, comme ça.
À construire des machines.
À ne pas avoir de gens à la rue.
À inventer des machines.
À inventer des choses.
À fabriquer plusieurs machines pour que les hommes vivent mieux.
À ton avis,
Est-ce que toutes les machines sont construites à la main?
Ça dépend lesquelles.
Oui, je pense. Ou non, par des robots aussi.
Non, des fois, il y a des autres machines qui fabriquent des bouchons de dentifrice et tout.
Non, avec des machines?
Bah, pas forcément. Ça peut être construit avec d'autres machines.
Non.
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 Il peut y avoir, je pense qu'il peut y avoir des robots ou un truc dans le genre.
Cite 5 machines que tu as chez toi.
Mon robot. Mon robot Boubi.
Ma machine à laver.
mon lave-vaisselle.
La cuisinière.
La machine à laver. Le sèche-linge. Un robot. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un micro-ondes, un four. Voilà.
La machine à laver, le sèche-linge, le four, le batteur électrique et le micro-ondes.
Télé? Tablette? Téléphone? Machine à laver? Micro-ondes,
ordinateur,
oui.
Télé, tablette, mmh. et console.
Et encore.
Micro-ondes, four, machine à laver, la vaisselle, et puis et c'est
la une télé. Un micro-ondes, une tablette, une console et un lave-vaisselle.
La console, la télé, la vaisselle, le lave-vaisselle et la machine à laver. Et le four.
Voilà, un micro-trottoir pardon, qui vous était proposé par Mickaël et Quentin qu'on retrouve. Ils avaient préparé une petite chronique. Voilà, leur sujet sur l'ingénieur n'est pas tout à fait fini. Messieurs, je vous laisse nous proposer votre petite chronique que vous aviez préparée.
Le métier d'ingénieur sert à inventer des machines. Cela va servir à aider les hommes et cela va les embêter car plus de machines égale moins de personnes qui travaillent et donc plus de chômage.
Très bien. Merci à vous, Mickaël et Quentin, d'avoir pris le temps de ce sujet sur les ingénieurs. C'est ainsi que va se terminer cette émission. Nous remercions nos différents invités, à savoir Andreas qui a répondu sur le sujet du foot freestyle. On rappelle qu'il fait partie notamment du collectif French Wings qu'on avait eu l'occasion de découvrir il y a quelques temps sur le Festival des Cultures Urbaines à Évreux. Nous remercions également Florian Vidal de l'EAC Athlétisme également d'avoir répondu à nos questions qu'on aura l'occasion de retrouver pas plus tard que le 24 septembre. Ce sera à la rentrée sur les antennes de Principe Actif pour la course Les Bruyciennes qu'organise évidemment l'EAC Athlétisme. Enfin, on remercie Raphaël Vigier, ancien ingénieur, d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Mickaël et Quentin avec qui nous étions. Je vous rappelle que cette émission était préparée par Maëlys, Roman, Emma, Lola, les deux Thomas, Mathéo, Sacha, Lucas et Théo. Et puis, je le disais, Mickaël et Quentin, on était en direct pour cette nouvelle émission des quartiers de l'école de Berville-la-Campagne. On se retrouvera tout le long de l'été pour de nouvelles aventures. Merci à vous, les enfants, d'avoir joué le jeu. Et puis, je salue au passage Monsieur JC à la réalisation de cette émission. La suite des programmes de Principe Actif, tout de suite, c'est la rediff à partir de 15h.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.